Honoré de Balzac, Illusion perdue. 21. À cette époque, les galeries de bois constituaient une des curiosités parisiennes les plus illustres. Il n'est pas inutile de peindre ce bazar ignoble, car pendant 36 ans, il a joué dans la vie parisienne un si grand rôle qu'il est peu d'hommes âgés de 40 ans à qui cette description, incroyable pour les jeunes gens, ne fasse encore plaisir. En place de la froide, haute et large galerie d'Orléans, espèce de serre sans fleurs, se trouvaient des baraques ou, pour être plus exact, des huttes en planches assez mal couvertes, petites, mal éclairées sur la cour et sur le jardin, par des jours de souffrance appelés croisés, mais qui ressemblaient aux plus sales ouvertures des guinguettes hors barrière. Une triple rangée de boutiques y formait deux galeries hautes d'environ 12 pieds. Les boutiques, six au milieu, donnaient sur les deux galeries dont l'atmosphère leur livrait un air méphitique et dont la toiture laissait passer peu de jours à travers des vitres toujours sales. Ces alvéoles avaient acquis un tel prix par suite de l'affluence du monde que, malgré l'étroitesse de certaines, à peine larges de 6 pieds et longues de 8 à 10, leur location coûtait 1000 écus. Les boutiques éclairées sur le jardin et sur la cour étaient protégées par de petits treillages verts, peut-être pour empêcher la foule de démolir, par son contact, les murs en mauvais plâtras qui formaient le derrière des magasins. Là, donc, se trouvait un espace de 2 ou 3 pieds où végétaient les produits les plus bizarres, d'une botanique inconnue à la science, mêlée à ceux de diverses industries, non moins florissante. Une maculature coiffait un rosier, en sorte que les fleurs de rhétorique étaient embaumées par les fleurs avortées de ce jardin mal soigné, mais fétidement arrosé. Des rubans de toutes les couleurs ou des prospectus fleurissaient dans les feuillages. Les débris de mode étouffaient la végétation. Vous trouviez un nœud de ruban sur une touffe de verdure, et vous étiez déçu dans vos idées sur la fleur que vous veniez admirer en apercevant une coque de satin qui figurait un dahlia. Du côté de la cour, comme du côté du jardin, l'aspect de ce palais fantasque offrait tout ce que la saleté parisienne a produit de plus bizarre. Des badigeonnages lavés, des plâtras refaits, de vieilles peintures, des écriteaux fantastiques. Enfin, le public parisien salissait énormément les treillages verts, soit sur le jardin, soit sur la cour. Ainsi, des deux côtés, une bordure infâme et nauséabonde semblait défendre l'approche des galeries aux gens délicats. Mais les gens délicats ne reculaient pas plus devant ces horribles choses que les princes des contes de fées ne reculent devant les dragons et les obstacles interposés par un mauvais génie entre eux et les princesses. Ces galeries étaient, comme aujourd'hui, percées au milieu par un passage, et comme aujourd'hui, l'on y pénétrait encore par les deux péristyles actuels, commencés avant la Révolution et abandonné faute d'argent. La belle galerie de pierre qui mène au Théâtre Français formait alors un passage étroit d'une hauteur démesurée et si mal couvert qu'il y pleuvait souvent. On la nommait galerie vitrée, pour la distinguer des galeries de bois. Les toitures de ces bouges étaient toutes d'ailleurs en si mauvais état que la maison d'Orléans eut un procès avec un célèbre marchand de cachemire et d'étoffe qui, pendant une nuit, trouva des marchandises avariées pour une somme considérable. Le marchand eut gain de cause. une double toile goudronnée servait de couverture en quelques endroits. Le sol de la galerie vitrée, où Chevet commença sa fortune, et celui des galeries de bois, était le sol naturel de Paris, augmenté du sol factice, amené par les bottes et les souliers des passants. En tout temps, les pieds heurtaient des montagnes et des vallées de boue durcie, incessamment balayées par les marchands, et qui demandaient aux nouveaux venus une certaine habitude pour y marcher. Ce sinistre amas de crottes, ces vitrages encrassés par la pluie et par la poussière, ces huttes plates et couvertes de haillons au dehors, la saleté des murailles commencées, cet ensemble de choses qui tenait du camp des bohémiens, des baraques d'une foire, des constructions provisoires avec lesquelles on entoure à Paris les monuments qu'on ne bâtit pas, cette physionomie grimaçante, allait admirablement aux différents commerces qui grouillaient sous ce hangar impudique, effronté, plein de gazouillements et d'une gaieté folle, où, depuis la révolution de 1789 jusqu'à la révolution de 1830, il s'est fait d'immenses affaires. Pendant 20 années, la bourse s'est tenue en face, au rez-de-chaussée du palais. Ainsi, l'opinion publique, les réputations, se faisaient et se défaisaient là, aussi bien que les affaires politiques et financières. On se donnait rendez-vous dans ces galeries avant et après la bourse. Le pari des banquiers et des commerçants encombrait souvent la cour du palais royal et refluait sous ses abris par les temps de pluie. La nature de ce bâtiment, surgi sur ce point on ne sait comment, le rendait d'une étrange sonorité. Les éclats de rire y foisonnaient. Il n'arrivait pas une querelle à un bout qu'on ne sût à l'autre de quoi il s'agissait. Il n'y avait là que des libraires, de la poésie, de la politique et de la prose, des marchandes de mode, enfin des filles de joie qui venaient seulement le soir. Là fleurissaient les nouvelles et les livres, les jeunes et les vieilles gloires, les conspirations de la tribune et les mensonges de la librairie. Là se vendaient les nouveautés au public qui s'obstinait à ne les acheter que là. Là se sont vendus dans une seule soirée plusieurs milliers de tel ou tel pamphlet de Paul-Louis Courier ou des aventures de la fille d'un roi. À l'époque où Lucien s'y produisait, quelques boutiques avaient des devantures, des vitrages assez élégants. Mais ces boutiques appartenaient aux rangées donnant sur le jardin ou sur la cour. Jusqu'au jour où périt cette étrange colonie sous le marteau de l'architecte Fontaine. Les boutiques, sises entre les deux galeries, furent entièrement ouvertes, soutenues par des piliers comme les boutiques des foires de province, et l'œil plongeait sur les deux galeries à travers les marchandises ou les portes vitrées. Comme il était impossible d'y avoir du feu, les marchands n'avaient que des chaufferettes et faisaient eux-mêmes la police du feu, car une imprudence pouvait enflammer en un quart d'heure cette république de planches desséchées par le soleil et comme enflammée déjà par la prostitution, encombrée de gaz, de mousseline, de papier, quelquefois ventilée par des courants d'air. Les boutiques de modistes étaient pleines de chapeaux inconcevables, qui semblaient être là moins pour la vente que pour l'étalage, tous accrochés par centaines à des broches de fer terminées en champignons et pavoisant les galeries de leurs mille couleurs. Pendant 20 ans, tous les promeneurs se sont demandé sur quelle tête ces chapeaux poudreux achevaient leur carrière. Les ouvrières, généralement laides, mais égrillardes, raccrochaient les femmes par des paroles astucieuses, suivant la coutume et avec le langage de la halle. Une grisette, dont la langue était aussi déliée que ses yeux étaient actifs, se tenait sur un tabouret et harcelait les passants. « Achetez-vous un joli chapeau, madame !»« Laissez-moi donc vous vendre quelque chose, monsieur !» Leur vocabulaire fécond et pittoresque était varié par des inflexions de voix, par des regards et par des critiques sur les passants. Les libraires et les marchandes de mode vivaient en bonne intelligence. Dans le passage nommé si fastueusement la galerie vitrée, se trouvaient les commerces les plus singuliers. Là s'établissaient les ventriloques, les charlatans de toute espèce, les spectacles où l'on ne voit rien et ceux où l'on vous montre le monde entier. Là s'est établi pour la première fois un homme qui a gagné 700 ou 800 000 francs à parcourir les foires. Il avait pour enseigne un soleil tournant dans un cadre noir, autour duquel éclataient ces mots écrits en rouge « Ici l'homme voit ce que Dieu ne saurait voir ». Prix 2 sous. L'aboyeur ne vous admettait jamais seul, ni jamais plus de 2. Une fois entré, vous vous trouviez nez à nez avec une grande glace. Tout à coup, une voix, qui eût épouvanté Hoffmann, le Berlinois, partait comme une mécanique dont le ressort est poussé. « Vous voyez là, messieurs, ce que dans toute l'éternité Dieu ne saurait voir, c'est-à-dire votre semblable. Dieu n'a pas son semblable. » Vous vous en alliez, honteux, sans oser avouer votre stupidité. De toutes les petites portes partaient des voix semblables qui vous vantaient des cosmoramas, des vues de Constantinople, des spectacles de marionnettes, des automates qui jouaient aux échecs, des chiens qui distinguaient la plus belle femme de la société. Le ventriloque Fitzjam affleurit là, dans le café Borel, avant d'aller mourir à Montmartre, mêlé aux élèves de l'école polytechnique. Il y avait des fruitières et des marchands de bouquets, un fameux tailleur dont les broderies militaires reluisaient le soir comme des soleils. Le matin, jusqu'à 2 heures après-midi, les galeries de bois étaient muettes, sombres et désertes. Les marchands y causaient comme chez eux. Le rendez-vous que s'y est donné la population parisienne ne commençait que vers 3 heures, à l'heure de la bourse. Dès que la foule venait, il se pratiquait des lectures gratuites à l'étalage des libraires par les jeunes gens affamés de littérature et dénués d'argent. Les commis chargés de veiller sur les livres exposés laissaient charitablement les pauvres gens tournant les pages. Quand il s'agissait d'un hindous de 200 pages comme Smara, Pierre Schlemihl, Jans Bogard, Joko, en 2 séances il était dévoré. En ce temps-là, les cabinets de lecture n'existaient pas. Il fallait acheter un livre pour le lire. Aussi, les romans se vendaient-ils alors à des nombres qui paraîtraient fabuleux aujourd'hui. Il y avait donc je ne sais quoi de français dans cette aumône faite à l'intelligence jeune, avide et pauvre. La poésie de ce terrible bazar éclatait à la tombée du jour. De toute rue adjacente allait et venait un grand nombre de filles qui pouvaient s'y promener sans rétribution. De tous les points de Paris, une fille de joie accourait faire son palais. Les galeries de pierre appartenaient à des maisons privilégiées qui payaient le droit d'exposer des créatures habillées comme des princesses entre telle ou telle arcade et à la place correspondante dans le jardin. Tandis que les galeries de bois étaient pour la prostitution un terrain public, le palais par excellence, mot qui signifiait alors le temple de la prostitution. Une femme pouvait y venir, en sortir accompagnée de sa proie et l'emmener où bon lui semblait. Ces femmes attiraient donc le soir, aux galeries de bois, une foule si considérable qu'on y marchait au pas, comme à la procession ou au bal masqué. Cette lenteur, qui ne gênait personne, servait à l'examen. Ces femmes avaient une mise qui n'existe plus. La manière dont elles se tenaient décolletées jusqu'au milieu du dos et très bas aussi par devant. Leur bizarre coiffure, inventée pour attirer les regards. Celle-ci en cauchoise, celle-là en espagnol. L'une bouclée comme un caniche, l'autre en bandeau lisse. Leurs jambes serrées par des bas blancs et montrées on ne sait comment, mais toujours à propos. Toute cette infâme poésie est perdue. La licence des interrogations et des réponses, ce cynisme public, en harmonie avec le lieu, ne se retrouve plus, ni au bal masqué, ni dans les bals si célèbres qui se donnent aujourd'hui. C'était horrible et gai. La chair éclatante des épaules et des gorges étincelait au milieu des vêtements d'hommes presque toujours sombres et produisait les plus magnifiques oppositions. Le brouhaha des voix et le bruit de la promenade formaient un murmure qui s'entendait dès le milieu du jardin comme une basse continue, brodée des éclats de rire des filles ou des cris de quelques rares disputes. Les personnes comme il faut, les hommes les plus marquants, y étaient coudoyés par des gens à figure patibulaire. Ces monstrueux assemblages avaient je ne sais quoi de piquant. Les hommes les plus insensibles étaient émus. Aussi, tout Paris est-il venu là jusqu'au dernier moment. Il s'y est promené sur le plancher de bois que l'architecte a fait au-dessus des caves pendant qu'il les bâtissait. Des regrets immenses et unanimes ont accompagné la chute de ces ignobles morceaux de bois. Le libraire L'Advocat s'était établi depuis quelques jours à l'angle du passage qui partageait ses galeries par le milieu, devant Doria, jeune homme maintenant oublié, mais audacieux, et qui défricha la route où brilla depuis son concurrent. La boutique de Doria se trouvait sur une des rangées donnant sur le jardin, et celle de L'Advocat était sur la cour. Divisée en deux parties, la boutique de Doria offrait un vaste magasin à sa librairie et l'autre portion lui servait de cabinet. Lucien, qui venait là pour la première fois le soir, fut étourdi de cet aspect, auquel ne résistaient pas les provinciaux ni les jeunes gens. Il perdit bientôt son introducteur. « Si tu étais beau comme ce garçon-là, je te donnerais du retour, » dit une créature à un vieillard en lui montrant Lucien. Lucien devint honteux comme le chien d'un aveugle. Il suivit le torrent dans un état d'hébétement et d'excitation difficile à décrire. Harcelé par les regards des femmes, sollicité par des rondeurs blanches, par des gorges audacieuses qui l'éblouissaient, il se raccrochait à son manuscrit qu'il serrait pour qu'on ne lui volât point, l'innocent. « Eh bien, monsieur, » cria-t-il en se sentant pris par un bras, et croyant que sa poésie avait alléché quelque auteur. Il reconnut son ami Lousteau, qui lui dit « Je savais bien que vous finiriez par passer là. » Le poète était sur la porte du magasin où Lousteau le fit entrer, et qui était plein de gens attendant le moment de parler au sultan de la librairie. Les imprimeurs, les papetiers et les dessinateurs groupés autour des commis, les questionnaient sur des affaires en train ou qui se méditaient. « Tenez, voilà Finot, le directeur de mon journal. Il cause avec un jeune homme qui a du talent, Félicien Vernoux, un petit drôle méchant comme une maladie secrète. « Eh bien, tu as une première représentation, mon vieux, » dit Finot en venant avec Vernoux à Lousteau. « J'ai disposé de la loge. »
Tu l'as vendu à Brolard ?
Eh bien, après, tu te feras placer. Que viens-tu demander à Doria ?
Ah, il est convenu que nous pousserons Paul de Kock. Doria en a pris 200 exemplaires, et Victor Ducange lui refuse un roman. Doria veut, dit-il, faire un nouvel auteur dans le même genre. Tu mettras Paul de Kock au-dessus de Ducange.
Mais j'ai une pièce avec Ducange à la gaieté, dit Lousteau.
Eh bien, tu lui diras que l'article est de moi.
Je serais censé l'avoir fait atroce. Tu l'auras adouci, il te devra des remerciements.
Ne pourrais-tu me faire escompter ce petit bon de 100 francs par le caissier de Doria ?
Dit Étienne à Finot.
Tu sais, nous soupons ensemble pour inaugurer le nouvel appartement de Florine.
Ah oui, tu nous traites, dit Finot, en ayant l'air de faire un effort de mémoire.
Eh bien, Gabusson, dit Finot en prenant le billet de Barbet et le présentant au caissier, donnez 90 francs pour moi à cet homme-là.
Allez, endosse le billet, mon vieux.
Lousteau prit la plume du caissier pendant que le caissier comptait l'argent et signa.
Lucien, tout yeux et tout oreille, ne perdit pas une syllabe de cette conversation.
« Ce n'est pas tout, mon cher ami, reprit Étienne. Je ne te dis pas merci. C'est entre nous, à la vie, à la mort. Je dois présenter monsieur à Doria, et tu devrais le disposer à nous écouter. »
« De quoi s'agit-il ? » demanda Finot.
« D'un recueil de poésie, » répondit Lucien.
« Ah ! » dit Finot en faisant un haut-le-corps.
« Monsieur, » dit Vernoux en regardant Lucien, « ne pratique pas depuis longtemps la librairie. Il aurait déjà serré son manuscrit dans les coins les plus sauvages de son domicile. »
En ce moment, un beau jeune homme, Émile Blondet, qui venait de débuter au journal des débats par des articles de la plus grande portée, entra, donna la main à Finot, à Lousteau, et salua légèrement Vernoux.
« Viens souper avec nous, à minuit, chez Florine, » lui dit Lousteau.
« J'en suis, » dit le jeune homme.
« Mais qui y a-t-il ? »
« Ah, il y a, » dit Lousteau, « Florine et Matifat le droguiste. Du Bruel, l'auteur qui a donné un rôle à Florine pour son début. » Un petit vieux, le père Cardot, et son gendre, Camusot. Puis Finot.
Fait-il les choses convenablement, ton droguiste ?
Il ne nous donnera pas de drogue, dit Lucien.
Monsieur a beaucoup d'esprit, dit sérieusement Blondet en regardant Lucien.
Il est du souper, Lousteau ?
Oui. Nous rirons bien.
Lucien avait rougi jusqu'aux oreilles.
En as-tu pour très longtemps, Doria ?
Dit Blondet en frappant à la vitre qui donnait au-dessus du bureau de Doria.
« Mon ami, je suis à toi. »«
Bon, » dit Lousteau à son protégé.
« Ce jeune homme, presque aussi jeune que vous, est au débat. Il est un des princes de la critique. Il est redouté. Doria viendra le cajoler, et nous pourrons alors dire notre affaire au pacha des vignettes et de l'imprimerie. Autrement, à 11 heures, notre tour ne serait pas venu. L'audience se grossira de moment en moment. »
Lucien et Lousteau s'approchèrent alors de Blondet, de Finot, de Vernoux, et allèrent former un groupe à l'extrémité de la boutique.
« Que fait-il ? » dit Blondet à Gabusson, le premier commis qui se leva pour venir le saluer.
« Il achète un journal hebdomadaire qu'il veut restaurer afin de l'opposer à l'influence de la Minerve, qui sert trop exclusivement Emery, et au conservateur, qui est trop aveuglément romantique.
Paiera-t-il bien ?
Mais comme toujours, trop, dit le caissier.
En ce moment, un jeune homme entra qui venait de faire paraître un magnifique roman, vendu rapidement et couronné par le plus beau succès, un roman dont la seconde édition s'imprimait pour Doria. Ce jeune homme, doué de cette tournure extraordinaire et bizarre qui signale les natures artistes, frappa vivement Lucien.
« Voilà Nathan !» dit Lousteau à l'oreille du poète de province.
Nathan, malgré la sauvage fierté de sa physionomie, alors dans toute sa jeunesse, aborda les journalistes chapeau bas et se tint presque humble devant Blondet qu'il ne connaissait encore que de vue.
Blondet et Finot gardèrent leur chapeau sur la tête. « Monsieur, je suis heureux de l'occasion que me présente le hasard. »«
Il est si troublé qu'il fait un pléonasme, » dit Félicien à Lousteau.
« De vous peindre ma reconnaissance pour le bel article que vous avez bien voulu me faire au journal des débats. Vous êtes pour la moitié dans le succès de mon livre. »
« Non, mon cher, non, » dit Blondet d'un air où la protection se cachait sous la bonhomie.
« Vous avez du talent, le diable m'emporte, et je suis enchanté de faire votre connaissance. Comme votre article a paru, je ne paraîtrai plus être le flatteur du pouvoir. Nous sommes maintenant à l'aise vis-à-vis l'un de l'autre. Voulez-vous me faire l'honneur et le plaisir de dîner avec moi demain ?»«
Finot en sera. »
« Lousteau, mon vieux, tu ne me refuseras pas !» ajouta Nathan en donnant une poignée de main à Étienne.
« Ah ! Vous êtes dans un beau chemin, monsieur, » dit-il à Blondet.
« Vous continuez les Dussault, les Fiévé, les Geoffroy.
Hoffmann a parlé de vous à Claude Vignon, son élève, un de mes amis, et lui a dit qu'il mourrait tranquille, que le journal des débats vivrait éternellement. »
« On doit vous payer énormément. »«
100 francs la colonne, » reprit Blondet.
« Ce prix est peu de chose, quand on est obligé de lire les livres, d'en lire 100 pour en trouver un dont on peut s'occuper, comme le vôtre. »«
Votre œuvre m'a fait plaisir. Parole d'honneur. » »«
Et il lui a rapporté 1500 francs, » dit Lousteau à Lucien.
« Mais vous faites de la politique ?» reprit Nathan.
« Oui, par-ci, par-là. » répondit Blondet.
Lucien, qui se trouvait là comme un embryon, avait admiré le livre de Nathan. Il révérait l'auteur à l'égal d'un dieu, et il fut stupide de tant de lâcheté devant ce critique dont le nom et la portée lui étaient inconnus. «
Me conduirai-je jamais ainsi ? Faut-il donc abdiquer sa dignité ? Se dit-il.
« Mets donc ton chapeau, Nathan. Tu as fait un beau livre et le critique n'a fait qu'un article. »
Ses pensées lui fouettaient le sang dans les veines. Il apercevait, de moment en moment, des jeunes gens timides, des auteurs besogneux qui demandaient à parler à Doria, mais qui, voyant la boutique pleine, désespéraient d'avoir audience et disaient en sortant « Je reviendrai ». Deux ou trois hommes politiques causaient de la convocation des chambres et des affaires publiques au milieu d'un groupe composé de célébrités politiques. Le journal hebdomadaire, duquel traitait Doria, avait le droit de parler politique. Dans ce temps, les tribunes de papier timbré devenaient rares. Un journal était un privilège aussi couru que celui d'un théâtre. Un des actionnaires les plus influents du Constitutionnel se trouvait au milieu du groupe politique. Lousteau s'acquittait à merveille de son office de cicérone. Aussi, de phrase en phrase, Doria grandissait-il dans l'esprit de Lucien, qui voyait la politique et la littérature convergeant dans cette boutique. À l'aspect d'un poète éminent, y prostituant la muse à un journaliste, y humiliant l'art, comme la femme était humiliée, prostituée sous ses galeries ignobles, le grand homme de province recevait des enseignements terribles. L'argent était le seul mot de toute énigme. Lucien se sentait seul, inconnu, rattaché par le fil d'une amitié douteuse au succès et à la fortune. Il accusait ses tendres, ses vrais amis du Cénacle, de lui avoir peint le monde sous de fausses couleurs, de l'avoir empêché de se jeter dans cette mêlée, sa plume à la main. « Je serais déjà blondé !» s'écria-t-il en lui-même. Lousteau, qui venait de crier sur les sommets du Luxembourg comme un aigle blessé, qui lui avait paru si grand, n'eut plus alors que des proportions minimes. Là, le libraire fashionable, le moyen de toutes ses existences, lui parut être l'homme important. Le poète ressentit, son manuscrit à la main,
une trépidation qui ressemblait à de la peur. Au milieu de cette boutique, sur des piédestaux de bois peints en marbre, il vit des bustes, celui de Byron, celui de Goethe et celui de Monsieur de Canalis, de qui Doria espérait obtenir un volume et qui, le jour où il vint dans cette boutique, avait pu mesurer la hauteur à laquelle le mettait la librairie. Involontairement, Lucien perdait de sa propre valeur. Son courage faiblissait. Il entrevoyait quelle était l'influence de ce Doria sur sa destinée, et il en attendait impatiemment l'apparition.
« Eh bien, mes enfants, dit un petit homme gros et gras, à figure assez semblable à celle d'un proconsul romain, mais adouci par un air de bonhomie auquel se prenaient les gens superficiels. Me voilà propriétaire du seul journal hebdomadaire qui put être acheté, et qui a 2000 abonnés.
Farceur, le timbre en accuse 700, et c'est déjà bien joli, dit Blondet.
Ma parole d'honneur la plus sacrée, il y en a 1200.
J'ai dit 2000, ajouta-t-il à voix basse, à cause des papetiers et des imprimeurs qui sont là.
Oh, je te croyais plus de tact, mon petit, reprit-il à haute voix.
Prenez-vous des associés? Demanda Finot.
C'est selon, dit Doria.
Veux-tu d'un tiers pour 40 000 francs?
Ça va. Si vous acceptez pour rédacteur Émile Blondet, que voici, Claude Vignon, Scribe, Théodore Leclerc, Félicien Vernoux, Jay, Jouy, Lousteau,
et pourquoi pas Lucien de Rubempré, dit hardiment le poète de province en interrompant Finot.
Et Nathan, dit Finot en terminant.
Et pourquoi pas les gens qui se promènent, dit le libraire en fronçant le sourcil et se tournant vers l'auteur des Marguerites.
À qui ai-je l'honneur de parler? Dit-il en regardant Lucien d'un air impertinent.
Un moment, Doria, répondit Lousteau. C'est moi qui vous amène, monsieur. Pendant que Finot réfléchit à votre proposition, écoutez-moi.
Lucien eut sa chemise mouillée dans le dos, en voyant l'air froid et mécontent de ce redoutable vizir de la librairie, qui tutoyait Finot, quoi que Finot lui dit-vous, qui appelait le redouté Blondet « mon petit », qui avait tendu royalement sa main à Nathan en lui faisant un signe de familiarité.
« Ah, une nouvelle affaire, mon petit !» s'écria Doria. « Mais tu le sais, j'ai 1100 manuscrits !»«
Oui, messieurs » cria-t-il. On m'a offert 1100 manuscrits. Demandez à Gabusson.
Enfin, j'aurai bientôt besoin d'une administration pour régir le dépôt des manuscrits, un bureau de lecture pour les examiner.
Il y aura des séances pour voter sur leur mérite, avec des jetons de présence et un secrétaire perpétuel pour me présenter des rapports.
Ce sera la succursale de l'Académie française. Et les académiciens seront mieux payés aux galeries de bois qu'à l'Institut.
C'est une idée, dit Blondet.
Une mauvaise idée, reprit Doria. Mon affaire n'est pas de procéder au dépouillement des élucubrations de ceux d'entre vous qui se mettent littérateurs quand ils ne peuvent être ni capitalistes, ni bottiers, ni caporaux, ni domestiques, ni administrateurs, ni huissiers.
On n'entre ici qu'avec une réputation faite. Devenez célèbre, et vous y trouverez des flots d'or.
Voilà 3 grands hommes de ma façon. J'ai fait 3 ingrats. Nathan parle de 6 000 francs pour la seconde édition de son livre, qui m'a coûté 3 000 francs d'articles et ne m'a pas rapporté 1 000 francs. Les 2 articles de Blondet, je les ai payés 1 000 francs et un dîner de 500 francs.
Mais, monsieur, si tous les libraires disent ce que vous dites, comment peut-on publier un premier livre? Demanda Lucien, aux yeux de qui Blondet perdit énormément de valeur quand il apprit le chiffre auquel Doria devait les articles des débats.
Cela ne me regarde pas, dit Doria en plongeant un regard assassin sur le beau Lucien qui le regarda d'un air agréable. Moi, je ne m'amuse pas à publier un livre, à risquer 2000 francs pour en gagner 2000. Je fais des spéculations en littérature. Je publie 40 volumes à 10 000 exemplaires, comme font Pankouk et les Baudouins. Ma puissance et les articles que j'obtiens poussent une affaire de 100 000 écus, au lieu de pousser un volume de 2000 francs. Il faut autant de peine pour faire prendre un nom nouveau, un auteur et son livre, que pour faire réussir les théâtres étrangers, Victoire et Conquête, ou les Mémoires sur la Révolution, qui sont une fortune. Je ne suis pas ici pour être le marchepied des gloires à venir, mais pour gagner de l'argent et pour en donner aux hommes célèbres. Le manuscrit que j'achète 100 000 francs est moins cher que celui dont l'auteur inconnu me demande 600 francs. Si je ne suis pas tout à fait un mécène, j'ai droit à la reconnaissance de la littérature. J'ai déjà fait hausser de plus du double le prix des manuscrits. Je vous donne ces raisons parce que vous êtes l'ami de Lousteau, mon petit, dit Doria au poète en le frappant sur l'épaule par un geste d'une révoltante familiarité. Si je causais avec tous les auteurs qui veulent que je sois leur éditeur, il faudrait fermer ma boutique, car je passerai mon temps en conversation extrêmement agréable, mais beaucoup trop chère. Je ne suis pas encore assez riche pour écouter les monologues de chaque amour-propre. Ça ne se voit qu'au théâtre, dans les tragédies classiques. Le luxe de la toilette de ce terrible Doria appuyait, aux yeux du poète de province, ce discours cruellement logique. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » dit-il à Lousteau. « Un magnifique volume de vers. » En entendant ce mot, Doria se tourna vers Gabusson par un mouvement digne de Talma. « Gabusson, mon ami, à compter d'aujourd'hui, quiconque viendra ici pour me proposer des manuscrits, entendez-vous ça, vous autres ? » dit-il en s'adressant à trois commis qui sortirent de dessous les piles de livres, à la voix colérique de leur patron, qui regardait ses ongles et sa main, qu'il avait belle. « À quiconque m'apportera des manuscrits, vous demanderez si c'est des vers ou de la prose. En cas de vers, congédiez-le aussitôt. Les vers dévoreront la librairie. »« Bravo, il a bien dit cela, Doria !» crièrent les journalistes. « C'est vrai !» s'écria le libraire en arpentant sa boutique, le manuscrit de Lucien à la main. « Vous ne connaissez pas, messieurs, le mal que les succès de Lord Byron, de Lamartine, de Victor Hugo, de Casimir de Lavigne, de Canalis et de Béranger ont produit. Leur gloire nous vaut une invasion de barbares. Je suis sûr qu'il y a dans ce moment, en librairie, 1000 volumes de vers proposés, qui commence par des histoires interrompues, sans queue ni tête, à l'imitation du corsaire et de Lara. Sous prétexte d'originalité, les jeunes gens se livrent à des strophes incompréhensibles, à des poèmes descriptifs, où la jeune école se croit nouvelle, en inventant de l'île. Depuis 2 ans, les poètes ont pullulé comme les hannetons. J'y ai perdu 20 000 francs l'année dernière. Demandez à Gabusson. Il peut y avoir, dans le monde, des poètes immortels. J'en connais de roses et de frais qui ne se font pas encore la barbe, dit-il à Lucien. Mais en librairie, jeune homme, il n'y a que 4 poètes. Béranger, Casimir de Lavigne, Lamartine et Victor Hugo. Car Canalis, c'est un poète fait à coups d'articles. » Lucien ne se sentit pas le courage de se redresser et de faire de la fierté devant ces hommes influents qui riaient de bon cœur. Il comprit qu'il serait perdu de ridicule, mais il éprouvait une démangeaison violente de sauter à la gorge du libraire, de lui déranger l'insultante harmonie de son nœud de cravate, de briser la chaîne d'or qui brillait sur sa poitrine, de fouler sa montre et de le déchirer. L'amour-propre irrité ouvrit la porte à la vengeance. il jura une haine mortelle à ce libraire auquel il souriait. La poésie est comme le soleil qui fait pousser les forêts éternelles et qui engendre les cousins, les moucherons, les moustiques, dit Blondet. Il n'y a pas une vertu qui ne soit doublée d'un vice. La littérature engendre bien des libraires. Et les journalistes, dit Lousteau. Dauriat partit d'un éclat de rire.
« Qu'est-ce que ça, enfin ? »
dit-il en montrant le manuscrit. « Un recueil de sonnets à faire honte à Pétrarque, » dit Lousteau.
« Comment l'entends-tu ? »
demanda Dauriat. « Comme tout le monde, » dit Lousteau, qui vit un sourire fin sur toutes les lèvres. Lucien ne pouvait se fâcher, mais il suait dans son harnais.
« Eh bien, je le lirai, »
dit Dauriat en faisant un geste royal qui montrait toute l'étendue de cette concession.
« Si tes sonnets sont à la hauteur du XIXe siècle, je ferai de toi, mon petit, un grand poète.
S'il a autant d'esprit qu'il est beau, vous ne courez pas de grands risques, » dit un des plus fameux orateurs de la Chambre qui causait avec un des rédacteurs du Constitutionnel et le directeur de la Minerve.
« Général, dit Dauriat, la gloire, c'est 12 000 francs d'articles et 1 000 écus de dîner. Demandez à l'auteur du solitaire.
Si M. Benjamin Constant veut faire un article sur ce jeune poète, je ne serai pas longtemps à conclure l'affaire. » Au mot de général, et en entendant nommer l'illustre Benjamin Constant, la boutique prit aux yeux du grand homme de province les proportions de l'Olympe. « Lousteau, j'ai à te parler, » dit Finot, « mais je te retrouverai au théâtre. Dauriat, je fais l'affaire, mais à des conditions. Entrons dans votre cabinet. »«
Viens, mon petit, » dit Dauriat en laissant passer Finot devant lui et faisant un geste d'homme occupé à 10 personnes qui attendaient.
Il allait disparaître quand Lucien, impatient, l'arrêta.
« Vous gardez mon manuscrit ?» « À quand la réponse ?»«
Mais, mon petit poète, reviens ici dans 3 ou 4 jours, nous verrons. » Lucien fut entraîné par Lousteau, qui ne lui laissa pas le temps de saluer Vernou, ni Blondet, ni Raoul Nathan, ni le général Foy, ni Benjamin Constant, dont l'ouvrage sur les 100 jours venait de paraître. Lucien entrevit à peine cette tête blonde et fine, ce visage oblong, ses yeux spirituels, cette bouche agréable, enfin, l'homme qui pendant 20 ans avait été le Potemkin de Madame de Staël et qui faisait la guerre aux Bourbons après l'avoir faite à Napoléon, mais qui devait mourir atterré de sa victoire. «
Quelle boutique !» s'écria Lucien quand il fut assis dans un cabriolet de place à côté de Lousteau.
Au panorama dramatique et du train. Tu as 30 sous pour ta course, dit Étienne au cocher.
Dauriat est un drôle qui vend pour 1 500 000 francs de livres par an.
Il est comme le ministre de la littérature, répondit Lousteau, dont l'amour-propre était agréablement chatouillé et qui se posait en maître devant Lucien.
Son avidité, tout aussi grande que celle de Barbet, s'exerce sur des masses.
Dauriat a des formes, il est généreux, mais il est vain.
Quant à son esprit, ça se compose de tout ce qu'il entend dire autour de lui.
Sa boutique est un lieu très excellent à fréquenter. On peut y causer avec les gens supérieurs de l'époque. Là, mon cher, un jeune homme en apprend plus en 1 heure qu'à pas lire sur des livres pendant 10 ans. On y discute des articles, on y brasse des sujets. On s'y lie avec des gens célèbres ou influents, qui peuvent être utiles. Aujourd'hui, pour réussir, il est nécessaire d'avoir des relations. Tout est hasard, vous le voyez. Ce qu'il y a de plus dangereux est d'avoir de l'esprit tout seul dans son coin.
« Mais quelle impertinence !» dit Lucien.
« Bah, nous nous moquons tous de Dauriat, » répondit Étienne. Vous avez besoin de lui, il vous marche sur le ventre. Il a besoin du journal des débats, et Émile Blondet le fait tourner comme une toupie.
Oh, si vous entrez dans la littérature, vous en verrez bien d'autres.
Eh bien, que vous disais-je?
Oui, vous avez raison, répondit Lucien. J'ai souffert, dans cette boutique, encore plus cruellement que je ne m'y attendais, d'après votre programme.
Et pourquoi vous livrer à la souffrance?
Ce qui nous coûte notre vie, le sujet qui, durant des nuits studieuses, a ravagé notre cerveau, toutes ces courses à travers les champs de la pensée, notre monument construit avec notre sang, devient pour les éditeurs une affaire bonne ou mauvaise. Les libraires vendront ou ne vendront pas votre manuscrit. Voilà pour eux tout le problème.
Un livre, pour eux, représente des capitaux à risquer.
Plus le livre est beau, moins il a de chances d'être vendu.
Tout homme supérieur s'élève au-dessus des masses. Son succès est donc en raison directe avec le temps nécessaire pour apprécier l'œuvre.
Aucun libraire ne veut attendre. Le livre d'aujourd'hui doit être vendu demain.
Dans ce système-là, les libraires refusent les livres substantiels auxquels il faut de hautes, de lentes approbations.
Oh, D'Arthez a raison, s'écria Lucien.
Vous connaissez D'Arthez? Dit Lousteau.
Je ne sais rien de plus dangereux que les esprits solitaires qui pensent, comme ce garçon-là, pouvoir attirer le monde à eux. En fanatisant les jeunes imaginations par une croyance qui flatte la force immense que nous sentons d'abord en nous-mêmes, ces gens à gloire posthume les empêchent de se remuer à l'âge où le mouvement est possible et profitable.
Je suis pour le système de Mahomet, qui, après avoir commandé à la montagne de venir à lui, s'est écrié « Si tu ne viens pas à moi, j'irai donc vers toi. »
Cette saillie, où la raison prenait une forme incisive, était de nature à faire hésiter Lucien entre le système de pauvreté soumise que prêchait le Cénacle et la doctrine militante que Lousteau lui exposait. Aussi, le poète d'Angoulême garda-t-il le silence jusqu'au boulevard du Temple.